Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Vaccination ouverte à tous, c'est fait. Les prises de rendez-vous sont possibles dès maintenant pour tous les adultes, sans condition. Terrasse, cinéma, stade, Jean Castex livre le mode d'emploi du retour à une vie normale. Déconfinement progressif à partir du 19 mai, total le 30 juin. Quelles sont les erreurs à ne pas reproduire? Quel est le risque d'une rechute et d'une quatrième vague? Arnaud Fontanet, le professeur épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, sera l'invité d'Europe Midi. Dans le journal, les ravages du Covid long, 60% des patients hospitalisés ont encore des symptômes 6 mois après. Le retour timide en France des touristes étrangers, ils commencent à réserver. Et le programme des Francopholies de La Rochelle, début juillet, pour lesquels il faudra un pass sanitaire. Dans l'actualité, la dernière journée de Nordal Lelandais, l'avocat général requiert 30 ans de réclusion criminelle. Avignon, le suspect appréhendé, formellement identifié par le collègue du policier tué. Et puis pour les deux enseignants accusés de fascisme à l'IEP Grenoble, l'inspection générale de l'éducation accable les élus étudiants. Après 13h, invité exceptionnel de La France Bouge, Jean-Dominique Sénard, le PDG du groupe Renault.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vaccination pour tous dès aujourd'hui et avec 24 heures d'avance, tous les adultes de plus de 18 ans peuvent donc prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Mais vous avez pu le vérifier ce matin, le GAL, il va falloir être très réactif.
Oui, parce qu'effectivement, ce sont 20 000 créneaux qui seront ainsi réservables chaque jour à la dernière minute dans une cinquantaine de grands centres de vaccination. 20 000 rendez-vous pour 23 millions de Français concernés. Ce matin, il restait une trentaine de places à Rennes, Grenoble, Montpellier, une centaine au stade Vélodrome de Marseille, mais rien à Paris ni à Lyon. La règle pour les moins de 50 ans, c'est donc de ne réserver que les créneaux disponibles le jour même ou le lendemain, et les vaccinateurs pourront vérifier la date de prise de rendez-vous. En revanche, explique Stanislas Niox-Château, cofondateur de Doctolib, inutile de se connecter à un horaire précis comme évoqué il y a quelques jours.
Par expérience, les centres, parfois, ils mettent à jour les disponibilités le matin, l'après-midi, le soir, donc il n'y a pas de règle. En temps réel, vous pourrez savoir s'il y a des créneaux libres, oui ou non, et si vous êtes éligible, oui. Ou non.
La prise de rendez-vous pourra aussi se faire sur le site Vite ma dose en cliquant sur l'onglet Chronodose et il faudra être réactif car 1 million de rendez-vous ont déjà été pris pour le week-end de l'Ascension. Avec ses réservations élargies à la dernière minute, le gouvernement espère ne pas ralentir du tout la cadence de vaccination. Habituellement, il y a 2 fois moins de prises de rendez-vous les jours fériés.
Jean Castex détaille ce matin dans Le Parisien les modalités du déconfinement qui sera total au 30 juin. Les bars, restaurants, cinémas, théâtres, salles de sport seront autorisés à faire le plein. D'ici là, le 19 mai, mercredi en 8, les terrasses rouvriront à la moitié de leur capacité. 2 semaines plus tard, le 9 juin, terrasses à 100% et salles à 50% avec 6 personnes maximum par table. Et les cinémas passeront d'une jauge de 35% à 65%. On reviendra sur d'autres aspects de la crise sanitaire un peu plus loin dans le journal. Deuxième titre de l'actualité, Avignon, le meurtre du brigadier Masson, l'enquête et ses suites. On apprend ce matin que le tireur présumé arrêté dimanche soir a été formellement identifié par le collègue du policier tué. Le suspect prétend qu'il n'était pas sur place. Lui et son complice sont présentés dans l'après-midi à des juges d'instruction en vue de leur mise en examen. Hier soir, face aux syndicats de police qui réclament davantage de fermeté, le Premier ministre a promis de durcir les peines contre les agressions de policiers et de gendarmes, avec des réductions de peines strictement limitées et une peine de sûreté portée à 30 ans pour les crimes passibles de perpétuité commis contre les forces de l'ordre. Guillaume Bier, quelle est la réalité de la réponse pénale aujourd'hui? Comment la justice traite les agresseurs de policiers et de gendarmes?
Eh bien, les chiffres de la chancellerie montrent qu'il n'y a pas de clémence pour les agresseurs de gendarmes et de policiers. En volume, le nombre de condamnations en correctionnel a augmenté de 32% en 10 ans. La réponse pénale est aussi plus rapide que pour d'autres affaires. 22% des atteintes aux forces de l'ordre sont jugées en comparution immédiate, contre 9% en moyenne pour les autres dossiers. Et les condamnations sont en moyenne plus sévères, entre guillemets, prison ferme dans 43,3% des cas, contre 37,8% pour les autres agressions où il n'y a pas de circonstances aggravantes. Voilà pour la vision globale, mais c'est dans le détail qu'il faut regarder. De la prison ferme, oui, mais combien et quelle application? Est-ce que les agresseurs condamnés vont réellement derrière les barreaux? C'est notamment pour enfin répondre à toutes ces questions que le syndicat de Police Alliance réclame depuis des mois un observatoire qui recenserait pour chaque affaire la peine encourue, la peine prononcée et la peine réellement purgée, pour en finir avec les idées reçues, le sentiment d'impunité ou de laxisme, et avoir une vision précise de cette réponse pénale.
Guillaume Bié, un homme en fuite dans les Cévennes après avoir tué par balle son patron et l'un de ses collègues dans la Syrie où il travaillait. Ça s'est passé ce matin dans le village du Plantier, dans le Gard, en plein parc national des Cévennes, sur les flancs du Mont-Aigoual, où le meurtrier est activement recherché. À Sciences Po Grenoble, où deux enseignants avaient publiquement été accusés d'islamophobie et de fascisme, avec leur nom placardé sur les murs, l'inspection générale de l'éducation vient de rendre son rapport d'enquête à la ministre Frédérique Vidal, qui l'avait commandé. Il est accablant pour les élus étudiants de l'Union syndicale, décrit comme omnipotent et ignorant de la loi, Virginie Riva.
Oui, les rapporteurs évoquent de la part de ces élus étudiants un manque d'intérêt en matière de droit au respect de la vie privée ou d'exercice des libertés individuelles, attitude problématique selon eux pour des étudiants engagés dans un cursus de sciences politiques. Le rapport éclaire bien sûr sur la naissance de l'affaire. Tout commence en novembre lorsque des dissensions se font jour entre deux enseignants au sein d'un groupe de travail chargé de préparer une semaine pour l'égalité et la lutte contre les discriminations. L'un des deux professeurs, qui sera mis en cause par la suite, refuse alors d'employer le mot d'islamophobie dans l'intitulé d'une journée de débat. Puis, c'est lors de la rentrée de janvier que les syndicats s'emparent de l'affaire avec une campagne virulente contre le professeur en question sur les réseaux sociaux et contre l'un de ses soutiens, allant jusqu'à lancer un appel à témoignages adressé aux étudiants de son cours sur l'islam pour dénoncer d'éventuels propos islamophobes et a demandé la suspension même de ce cours. La direction tente bien d'apaiser les choses, mais sans jamais rappeler la gravité de l'accusation d'islamophobie, alors que pour les rapporteurs, aucun propos du professeur mis en cause ne tombe sous le coup de la loi. La mission réclame donc des mesures disciplinaires fortes pour les étudiants en représentants syndicaux, demande relayée par la ministre Frédérique Vidal.
Virginie Riva, à Chambéry, dernière journée du procès de Nordal Lelandais, contre lequel l'avocat général vient de réclamer 30 ans de réclusion criminelle, Marion Dubreuil.
Oui, l'avocate générale a requis la peine maximale car elle estime que Nordal Lelandais est un homme dangereux pour ses semblables. La magistrate a coupé court aux fantasmes qui font planer l'ombre de l'accusé sur d'autres disparitions pour se concentrer sur le seul dossier d'Arthur Noyer. Pas de scène de crime, pas de corps ou si peu. On ne sait pas parce que Nordal Lelandais fait en sorte qu'on ne sache pas. La magistrate a battu en brèche la version de la défense d'une bagarre qui a mal tourné. On sait avec certitude que le caporal Noyer voulait rentrer à la caserne, poursuit l'avocate générale. Il n'a rien à faire à Saint-Baldoff. Aucun ami, aucune raison de demander à Nordal Lelandais de le déposer en stop à cet endroit. Pourquoi le mener dans cette commune si ce n'est pour espérer une relation sexuelle? Je ne vois pas d'autre mobile. Le maître chien de 38 ans reste impassible dans son box. Pour la magistrate, la volonté de tuer saute aux yeux. Son acharnement sur un homme vulnérable qui mesure 13 cm de moins, pèse 15 kg de moins, signe l'intention de tuer, tout comme la dissimulation du corps et son comportement dans les trois jours qui suivent. Sortie au cinéma, en discothèque, relations sexuelles, Cécile Noyer, la mère d'Arthur, a paru soulagée à la sortie de l'audience.
Nous, c'est ce qu'on dit depuis le départ. On ne tue pas par accident et on continue à vivre comme si de rien n'était. On a été entendus et son réquisitoire est à la hauteur de ce qu'on espérait.
L'avocate générale a conclu son réquisitoire sur le dossier Maïlis. Un homme qui a tué malgré lui, recommencerait-il à tuer quelques mois plus tard? La réponse est non. Un réquisitoire implacable que les avocats de Nordal Lelandais vont avoir du mal à faire oublier dans leur plaidoirie cet après-midi.
Marion Dubreuil, à Chambéry, aux Assises de Savoie. À l'étranger, au moins 20 morts cette nuit à Gaza, dont 9 enfants après les représailles israéliennes, selon un bilan du Hamas. L'escalade meurtrière se poursuit en réplique aux salves de roquettes tirées depuis la bande de Gaza. Gwendoline de Bonneau, vous êtes à Jérusalem. La riposte israélienne tourne à l'opération militaire d'ampleur.
Oui, absolument. Et cette opération militaire, elle a désormais un nom. Il s'agit de l'opération Gardien des Murs. Nous ne sommes plus dans une riposte ponctuelle à des tirs de roquettes. Rien que cette nuit, l'armée israélienne dit avoir frappé 150 cibles. Plusieurs commandants des groupes armés actifs dans l'enclave ont été tués. Le Hamas et le djihad islamique le reconnaissent. L'armée israélienne veut frapper fort l'état-major des factions, dit un officiel. L'objectif, c'est de dissuader le Hamas et le djihad islamique de s'engager dans une confrontation plus longue. Fin 2019, le chef du djihad islamique avait été éliminé par les Israéliens. Les tirs de roquettes ont sensiblement diminué depuis, rappelle un haut gradé. D'après nos sources à Gaza, son frère a été tué aujourd'hui dans une frappe. Les roquettes, à l'heure qu'il est, continuent d'être tirées en grand nombre depuis la bande de Gaza. L'opération Gardien des Murs va s'étendre à minima sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Gwendoline de Bonneau depuis Jérusalem. En en direct pour Europe 1. En Russie, une fusillade a fait 7 à 11 morts, selon les bilans, dans une école de Kazan, grande ville du centre du pays. Les deux tireurs, dont l'un a été tué, sont deux adolescents. Vladimir Poutine ordonne ce matin de revoir les règles du port d'armes.
Europe Midi, Patrick Cohen.
La suite après une pause, les souffrances et les mystères du Covid long.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Les mystères du Covid, oui, le Covid peut rester masculin. La nouvelle édition du Petit Robert vient d'en admettre l'usage. Parmi ces mystères, le Covid long qui frappe 60% des patients hospitalisés 6 mois après leur sortie. L'étude que vient de publier l'Inserm montre l'ampleur du phénomène, Victor Delande, et aussi son caractère inexpliqué.
Oui, alors qu'il n'y a plus aucune trace du virus dans leur organisme, 60% des 1137 patients hospitalisés inclus dans cette étude continuent de souffrir d'au moins un symptôme 6 mois plus tard, et 24% d'entre eux souffrent même de 3 symptômes ou plus, la fatigue le plus souvent, l'essoufflement ou encore les douleurs musculaires. C'est le cas de Florence, une mère de famille de 46 ans. Avant d'être contaminée en mars 2020, elle n'avait aucun problème de santé. Aujourd'hui, elle vit un enfer.
Il y a énormément de troubles de la mémoire. Il m'arrive d'oublier mon fils à l'école, de ne pas savoir faire fonctionner mon micro-ondes ou mon téléphone. Ça, c'était il y a quelques mois. Ça m'arrive encore un petit peu, mais moins. Je bégaye énormément le soir quand je suis très très fatiguée. J'ai des douleurs musculaires, des douleurs au niveau des articulations, hanches, pieds, enfin chevilles, et des maux de tête quotidiens.
Le problème, c'est que les chercheurs n'expliquent toujours pas pourquoi la fatigue ou les douleurs persistent chez ces malades. Ils doivent continuer leurs recherches, mais il y a peut-être une petite lueur d'espoir avec la vaccination. Selon une étude menée par l'université de Bristol sur 44 patients qui souffraient de symptômes persistants, la vaccination aurait amélioré leur état. Mais il faudra bien évidemment confirmer ces résultats dans une étude de plus grande ampleur.
Victor Delande, le professeur Axel Kahn est gravement malade, il vient de le faire savoir. Il a décidé de se mettre en retrait de ses fonctions de président de la Ligue contre le cancer. Il se dit frappé par un cancer qui s'est aggravé récemment. Pour les Français, le retour à une vie normale, c'est aussi une France avec des touristes. Le gouvernement lance aujourd'hui une campagne de relance, en sachant bien que nous ne retrouverons pas dès cette année les 90 millions de touristes de 2019. Carole Ferry, vous avez quelques indicateurs. Les étrangers ont envie de revenir, ils ont commencé à réserver, mais il y a pas mal d'obstacles et d'incertitudes pour ce retour.
Eh bien oui, parce que nous sommes prêts à les accueillir, mais eux ne savent pas toujours s'ils pourront venir. Le gros des touristes en France, ce sont les Britanniques, les Allemands, les Néerlandais. Et pour le moment, eh bien, rien ne leur garantit d'échapper à une quarantaine après un séjour en France cet été. Frontsign, par exemple, est néerlandaise. Elle a prévu de venir en Dordogne au mois d'août, mais n'a aucune certitude.
J'y pense tous les jours. J'aimerais pouvoir sortir d'Amsterdam, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais ça serait bien de prendre l'air en France. Mais on ne sait pas encore si on aura le droit de sortir du pays. Donc ça va être dernière minute, je pense.
Alors Atout France, qui est chargé de promouvoir la France à l'étranger, table malgré tout sur une hausse de 20 à 40% des touristes étrangers cet été par rapport à l'été dernier. Les professionnels tentent d'y croire, mais avec quelques réserves, comme l'explique Jean-Guy Amat. Il est patron d'un camping dans l'Hérault qui accueille essentiellement des Allemands et des Néerlandais.
Le problème, c'est qu'on est obligé également, pour rassurer les clients, de leur offrir des conditions d'annulation extrêmement favorables, ce qui fait que si les clients annulent, c'est de la perte sèche pour nous. On est véritablement dans une situation où, à tout moment, on peut basculer de planning plein à un planning totalement vide.
Et puis, il y a un autre frein. C'est que pour voyager cet été, il faudra soit être vacciné, soit avoir un test négatif. Or, nous sommes l'un des rares pays à avoir des tests PCR gratuits. À l'étranger, ils sont souvent payants et à 80 euros le test en moyenne, eh bien, ça fait rapidement grimper la facture pour le budget d'une famille.
Carole Ferry, merci. Francis Cabrel, Benjamin Biolay, Jane Birkin, parmi les têtes d'affiche des Francofolies de La Rochelle du 10 au 14 juillet. Mais pour y accéder, Angèle Châtelier, il faudra un pass sanitaire.
Oui, à savoir montrer un certificat de vaccination ou un test PCR négatif. Et une fois sur place, vous serez assis, 5000 personnes maximum dans l'espace, mais toutes ces contraintes aideront à rassurer le public présent, nous dit Gérard Pont, qui est le directeur des Francofolies de La Rochelle et qui a aussi dû adapter la programmation.
On a pris en compte le fait que nos festivaliers seraient assis et que donc il valait mieux essayer de trouver des artistes qui puissent correspondre à cette situation assise. J'espère que le public sera là, quoi. J'espère qu'on aura tous envie d'être au rendez-vous. Enfin, en tout cas, nous, on y sera.
Un public qui sera aussi masqué et de nombreuses têtes d'affiche ont accepté de jouer justement devant un public dénué de sourire. Laurent Voulzy, Louis Chédid, Mio Sec, Marc Lavoine, Pomme Vianney ou encore Feu Chatterton. des artistes ont refusé de jouer devant un public masqué, mais d'autres n'avaient tout simplement pas le choix. Ce sont les artistes découvertes, une quarantaine, qui vont enfin pouvoir se faire connaître auprès du public. Parmi eux, November Ultra et Sa Voix Douce, qui a aussi pu profiter du chantier des Francofolies, un dispositif d'accompagnement pour les groupes émergents.
Bah ça fait envie, Angèle Châtelier. Bah oui. Merci d'être venu nous parler de tout ça et de nous faire entendre ces quelques musiques avant-goût des Francofolies du mois de juillet. Le temps, Anissa Dadi. Toujours un département en vigilance orange.
Oui, il en reste un, Patrick, effectivement. Il s'agit du département de l'Ain en vigilance orange, pluie, inondation. Pour quelques heures encore, on va avoir l'œil fixé sur ce département parce que c'est dans le Grand Est que les orages vont se concentrer cet après-midi, en particulier entre le Jura et les Alpes du Nord, où il neige, tiens, à partir de 1900 mètres d'altitude. Sur le Grand Est, donc, des averses localement fortes. Il y aura des orages aussi en Provence et en Corse cet après-midi. Partout ailleurs, nous avons un ciel qui alterne entre nuages, averses et éclaircies. Les températures sont fraîches et elles continuent de baisser avec 11 degrés à Aurillac, 13 à Guéret, 14 à Brest et Limoges, 16 degrés pour Biarritz et Belfort, 17 à Nantes et Strasbourg, 18 pour Paris et Lyon et 20 la maximale à Nîmes.
Merci Anissa.